Chapitre 2e, le vaillant revenant. De grand matin, le lendemain, Prosper et Philippe, par une des multiples portes desservant la maison mystérieuse de Martin Numa, étaient sortis. Ils étaient allés aux provisions et nous avaient préparé de quoi nous restaurer. Ils tenaient prêts également ceux qui devaient alimenter le chef. Nous finissions à peine de prendre notre breakfast que nous entendîmes dans la chambre du chef un joyeux appel « Hello ! Hello, mes garçons !» Nous accourûmes dans la chambre, entourant le lit du malade. Martin Numa se tenait à demi relevé, appuyé à ses oreillers. Il était très pâle, mais ses yeux brillaient d'un bon éclat et un large sourire illuminait sa figure. Ah, quel contraste avec la figure qu'il avait hier soir, crispée, contractée, verdâtre, épouvantable, effrayante dans ses crises de souffrance. Avec quelle cordiale poignée de main, quelles affectueuses étreintes! « Je parie, nous dit-il, que vous m'avez fait revenir de loin, hein, docteur ?»« Oui, mon ami, de loin, de très loin. »«
D'un loin d'où tout autre sans vous ne serait pas revenu ?»«
Probablement. Bref, je suis un revenant. »«
Un vaillant revenant. »«
C'est le moindre, après avoir été deux fois mort. »«
Je suis un revenant pour un double mort. »
Comme nous l'avait dit le docteur Gouget, de tout ce qui s'était passé, il n'avait aucun souvenir. Il ressentait seulement une extrême fatigue et encore une sorte d'engourdissement des membres. « Racontez-moi, dit-il, ces bonnes aventures, Gourville, faites-moi un reportage verbal. » Mais le docteur Gouget intervint. « Pas maintenant. Tout s'est bien passé puisque vous voilà, en bon état, mais vous êtes encore très fatigué. Il vous faut un jour entier de repos. Je vais refaire votre pansement. Vous allez déjeuner légèrement, puis vous dormirez tout le reste du jour et toute la nuit.
Oh !»
« Parfaitement. Demain seulement, je vous autoriserai à écouter Courville et à parler. Jusque-là, rien. »«
Quel docteur? C'est un bourreau chinois. »
Il fallut obéir. Martin Numa dut se plier à ce qu'il appelait la consigne doctorale. Il prit le repas léger que Prosper, parfait maître que, lui avait préparé, absorba la potion que, suivant l'ordonnance du docteur Gouget, Philippe était allé quérir chez un pharmacien du voisinage, et il ne tarda pas à retomber dans son profond sommeil. Au demeurant, Martin Numa était parfaitement revenu à lui, et cet homme admirable, dès qu'il ouvrit les yeux, montra qu'il avait tout son esprit présent, qu'il se trouvait dans son état habituel d'intelligence. Il put approuver son transport jusque chez lui, se déclarer satisfait. Puis, maintenant, confiant dans l'habileté du médecin et le dévouement de ses hommes, il venait de partir dans un sommeil bienfaisant dont il avait grand besoin. On le laissa donc ainsi reposer dans son lit. Dans l'après-midi du lendemain, le docteur Gouget, qui avait défendu qu'on lui parlât, qui lui avait interdit à lui-même d'écouter quoi que ce soit, après un nouvel examen de la blessure, un nouveau pansement, lui permit enfin de prononcer quelques mots et lui donna toute latitude d'écouter jusqu'à manifestation de fatigue. Quant à moi, qui en somme en savais moins que tout autre, je crus bon de laisser les lieutenants faire le reportage verbal. Martin Numa dit alors « Mon bon Prosper, mon bon Philippe, je suis bien content de vous avoir auprès de moi, de même que je suis tout à fait heureux de me sentir encore auprès de vous. Mais dites-moi, comment êtes-vous arrivé à temps ?»«
C'est tout simple, chef. » »«
Comment avez-vous eu connaissance de mon équipée ? Comment avez-vous déniché le Krabs ? Comment enfin êtes-vous parvenu jusqu'à moi dans cet épouvantable guépier ?» Ce fut Prosper qui répondit. Vous vous souvenez, chef, il y a quelques jours, quand l'homme qui est mort à l'Hôtel Dieu fit entendre ces bouts de mots qui nous intriguèrent tant sur le moment dal, dal, ta, ta, tout. Martin Numa inclina la tête pour approuver. Eh bien, reprit Prosper, vous avez bien voulu me dire que dal signifiait Vidal, c'est-à-dire Éloi Vidal, le garçon de recette disparu. Mais ensuite, vous m'avez fait entendre ce que vous saviez peut-être et que vous me diriez plus tard. Ce que signifiait « ta, ta, tout » prononcé par ce malheureux, et sans plus rien me révéler, vous m'avez donné congé ce soir-là.
Oui.
Je me suis donc retiré. « Vous n'aviez rien d'autre à faire, » dit Martin Numa en riant. « Mais cela ne me contentait qu'à demi, ça me travaillait. J'ai cherché dans ma mémoire. J'ai cherché à deviner ce que pouvaient signifier ces deux bouts de mots « ta, ta, tout ». J'ai interrogé Philippe, et nous avons cherché ensemble, sans rien nous dire, mettant de notre côté une sorte d'amour-propre, à trouver ce secret que vous, chef, connaissiez déjà et que vous ne vouliez pas nous révéler.
Bien, mes amis,
nous eûmes l'idée, après avoir tourné en tous sens ce fameux ta-ta, après avoir mis un commencement de mot et une fin à ce ta, après avoir échafaudé toute espèce de nom, de lambeau de phrase, de probabilité, de parole, si nous pouvons ainsi dire, nous avons eu l'idée de réunir ce ta et ce tout en un seul mot et nous avons trouvé tatou. En effet, de tatou à tatouer, vous le voyez, chef, la distance n'est pas longue, non. Nous n'eûmes pas beaucoup d'hésitation. Alors, une fois en présence du mot tatoué, nous avons rappelé nos souvenirs et nous avons trouvé qu'autrefois vous avez eu à vous occuper d'un bandit terrible qu'on ne connaît que sous le sobriquet du tatoué. Très bien, et puis, nous nous sommes rappelés que ce tatoué était considéré par vous comme l'homme le plus habile et le plus redoutable. C'est vrai. Nous savions que dans le monde de la police, on affirmait qu'il n'y avait qu'un seul homme qui ait pu lutter avec lui, qui soit arrivé à s'en emparer, et que cet homme était le roi des détectives. Alors, il nous fut facile ensuite d'apprendre que le tatoué, condamné au bagne, avait pu s'échapper, et que depuis sa fuite, on était sans nouvelles de lui. Il était tout simple, dans ce cas, d'imaginer que ce fameux tatoué venait de regagner la France, qu'il était revenu à Paris, la ville où l'on se cache si bien, et que tout en se montrant à tout le monde, sans être reconnu de personne, il avait pu organiser une nouvelle bande de malfaiteurs. Dans cette bande se trouvait probablement cet homme arraché par vous miraculeusement à la catastrophe du souterrain. Et puis, cette hypothèse, une fois admise, Philippe et moi nous la discutâmes longuement et nous nous sommes dit « Il est certain que le chef, maintenant que son ancien ennemi le tatoué reparaît, de cette façon extraordinaire, est à nouveau provoqué par cet homme. Le chef va se mettre en campagne et rechercher le bandit. C'est tout naturel, appuya Philippe. Vous comprenez, chef, reprit Prosper, que nous vous connaissons trop pour ne pas savoir que cette découverte devait vous déranger, que vous n'y tiendriez pas, que vous n'auriez pas la patience d'attendre d'être guéri et que vous commettriez facilement une imprudence.
Oh, mes amis,
oui, chef, nous avons pensé, Prosper et moi, que si vous ne donniez pas à nous, vos lieutenants, vos confidents, le secret du tatoué, si vous n'en parliez pas à nous, c'est que vous espériez faire les recherches vous-même et tenter un coup difficile tout seul. Et nous savions parfaitement que vous ne pouviez pas encore le faire, que vous ne deviez pas écouter votre courage. Alors, or, si vous en aviez parlé, à vous ou à quiconque, nous vous aurions engagé à patienter encore quelque temps, à ne pas vous risquer dans les conditions de faiblesse où vous vous trouviez. Vous auriez raison. En somme, nous aurions cherché à vous retenir dans les limites de la juste prudence. Mais cela ne devait pas vous aller. Nous étions certains que vous ne résisteriez pas au désir de tenter cette affaire. Nous étions certains que vous alliez commettre quelque folie dangereuse. Alors, qu'avez-vous fait? Pendant que le chef recherchait le tatoué, essayait une tentative, nous, de notre côté, nous nous sommes mis à surveiller notre chef, à l'épier, sans qu'il se doutât de la garde, sans qu'il le voulût. J'étais sous la surveillance de la police, et puisqu'il nous était impossible de l'empêcher de commettre la folie qui le tarabustait, nous nous sommes dit qu'il fallait nous trouver prêts à raccommoder les choses quand elles se gâteraient du fait de cette imprudence. Parfait. Et voilà comment nous avons vu notre chef sortir de l'hôpital, où on le soignait, déguisé en simple visiteur de malade. Voilà comment nous l'avons vu pousser jusqu'ici à Passy, et qu'il nous a été possible de le retrouver sous le déguisement de M. Thomas, répétiteur, venu de province, de le reconnaître dans sa grande redingote, sous son gros gibus à longs poils, avec son énorme parapluie en coton bleu à la main, et de le suivre jusqu'au moment où il entrait dans la banque de M. de Krapps. Très bien, après, là, nous ne savions pas au juste ce que vous vouliez faire. Alors moi, qui étais venu jusqu'à quelques pas derrière vous, déguisé en étudiant, j'ai présenté à la caisse une pièce brésilienne qui n'a plus cours ici, demandant si on voulait me faire le change et me donner la valeur en monnaie française, comme cela se fait dans les maisons de ce genre, ou me la prendre pour le poids du métal. C'est bien, alors. À la caisse, très aimablement, en me retenant un léger escompte, le caissier prit ma pièce, me donna sa valeur en argent au cours du jour, et c'est tout? Non, chef. Pendant que le caissier me payait, j'ai remarqué qu'il avait au deuxième doigt de la main gauche une bague en or, et j'ai remarqué, à voir cet ornement, que même le garçon de bureau avait à la main gauche, au deuxième doigt, un anneau d'argent. Ah ah ! Plus de doute. Nous avions flairé, Philippe et moi, le traquenard. Nous avons vu que ces gens étaient tous des conjurés.
car nous nous rappelions que vous nous aviez dit avoir remarqué, au moment où l'on allait vous emmurer vivant, que vos bourreaux portaient au deuxième doigt de la main gauche des anneaux d'or ou d'argent. Très juste. Ainsi, nous nous trouvions en présence ici, boulevard Saint-Michel, en plein jour, dans une maison de banque, en présence des gens que nous poursuivions quelque temps auparavant dans le souterrain de la rue Lamartine. Alors nous eûmes cette terreur, à ce moment, de nous dire qu'encore une fois Martin Dumas se trouvait entre les mains de ces bandits. C'était bien ça. Donc, plus d'hésitation possible, le temps d'aller chercher quelques hommes sûrs, de nos hommes, à nous, et de revenir. Puis, nous envahissions la banque sous un prétexte quelconque, commencions la bataille, parce que l'on voulait nous refuser l'entrée du cabinet du directeur où nous pensions que vous deviez vous trouver. Martin Dumas eut un sourire. Il tendit les mains à ses hommes. « Merci, merci, mes amis, leur dit-il. C'est très bien, vous avez très bien fait. » Prosper reprit. « Certes, c'était agir un peu en dehors de nos règles habituelles et de la façon dont vous nous avez dressés. Pas du tout. C'était brusquer les choses, c'était compromettre, peut-être, l'issue de l'affaire. Mais le temps nous manquait pour agir de ruse et pénétrer par surprise. Nous avons pensé qu'il fallait arriver à vous le plus tôt possible, et le meilleur moyen d'aller vite, c'était de foncer tête baissée dans les ennemis. » Prosper simplement ajouta, « Et pour une fois, chef, vous voyez que nous n'avons pas eu tort de marcher, sans avoir reçu des ordres de vous, mais comme si vous nous aviez donné la mission d'agir ainsi. » Martin Dumas regarda longuement ses hommes avec des yeux pleins d'affection. Puis il demanda une cigarette, se mit à fumer lentement sans rien dire. Prosper et Philippe observèrent de leur côté le même silence, et les trois hommes se regardèrent ainsi, roulant dans leur tête des pensées directes et différentes. Mais on sentait qu'ils étaient tous les trois dominés par une idée précise, par la même pensée, par un unique désir. On voyait bien qu'un nouveau problème difficile, poignant, qui allait les prendre tout entier, venait de se poser à eux. Le tatouer.